C'est tout un chant qu'on vient de chanter, n'est-ce pas? Un « Prends tout, Seigneur ». Wow! Je ne sais pas si vous avez porté attention aux paroles. Ben, on en a manqué quelques-unes à l'écran, mais heureusement, on le connaissait bien, ce chant-là. Mais « Prends tout, Seigneur », que ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui nous appartient en propre. Là. On reconnaît que tous nos biens appartiennent à Dieu, même notre vie, notre être, notre âme. On est encore quand même attaché à certaines choses, des biens matériels même. Moi, cette semaine, un voleur a volé mon ordinateur portable, mon laptop, qui était sur le siège passager de ma voiture, donc il a brisé la fenêtre de la voiture. Bon, c'est juste du matériel, là, mais ça fait un petit pincement quand même. Mais le pire, c'est que ma Bible, où j'avais pris un paquet de notes, était dans mon caisse de laptop. Donc là, j'en ai une belle neuve, mais elle n'a plus rien de souligné à l'intérieur. Ce serait un exercice de recommencer. Mais ce chant-là nous rappelle à quel point le chrétien, lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, est censé être vraiment livré à Dieu. Il est censé avoir donné sa vie au Seigneur. Il y a une récente étude qui a fait un peu un portrait, un bilan de santé des églises en Amérique du Nord suite à la pandémie. Ça fait déjà plus d'un an et demi, je pense qu'on est en pandémie, là. Puis les églises ont souffert de cela. Et malheureusement, il semble que le bilan montre qu'environ un tiers des chrétiens ont délaissé leur assemblée. Donc, ils déclarent qu'ils ne vont plus y aller. Bon, certains, c'est parce qu'ils utilisent le prétexte qu'ils peuvent suivre le culte à distance, mais on sait qu'il y en a plusieurs qui ont complètement décroché. Mais un tiers, c'est quand même beaucoup. On peut se consoler qu'heureusement, on a été épargné de cela. Je ne pense pas que c'est un tiers des membres qui est porté disparu. Mais quand même, c'est désolant de voir ça. C'est une grande tristesse. On peut prier pour eux. Et que Dieu puisse utiliser ce moment-là pour manifester sa gloire, sa puissance par son Saint-Esprit, pour ramener ses brebis perdues et les ramener encore plus fortes qu'avant et revitaliser les églises. Mais ça reste un défi pour le peuple de Dieu de rester consacré à l'Éternel. Et c'était encore plus difficile dans l'Ancien Testament, voire impossible. Et on étudie le livre de Néhémie, on va voir un exemple d'une grande reconsécration. Donc c'est un chapitre qui est positif en soi, mais il est quand même écrit, il relate une histoire qui est dans le contexte de l'Ancien Testament où, de façon générale, le peuple d'Israël n'est pas fidèle à Dieu. Mais quand même, on a un petit soulagement ici. On voit une grâce de Dieu dans la vie des Juifs revenus d'exil. Donc, dans l'histoire de Néhémie, ça se passe à l'époque où c'est après l'exil. Donc, après qu'Israël avait été détruit et que les survivants avaient été emmenés en captivité, la plupart d'entre eux, en Babylonie, qui était devenu l'Empire perse, ils ont eu, par la main de Dieu, là, la permission de retourner dans leur territoire, même la permission de reconstruire le temple, reconstruire la muraille. Ils ont même pu réinstaurer le culte à l'Éternel avec les sacrificateurs, les chantres, les portiers aussi pour monter la garde. Et le peuple est plus uni que depuis longtemps, en ce cas. Et on a vu au chapitre 8, donc il y a quelques semaines, que pendant qu'ils célébraient, ils s'étaient réunis pour célébrer la fête de la moisson, une fête traditionnelle ordonnée par Dieu. Ils ont lu la loi de l'Ancien Testament. Et ils l'ont lu pendant toute une semaine, à chaque jour. Puis ils ont eu le cœur vivement touché. Dieu vraiment a parlé à leur cœur par sa parole. Ils étaient convaincus, c'est écrit à plusieurs reprises, que ce n'était pas seulement la loi de Moïse, c'était la parole de Dieu. C'était la loi de Dieu qu'il avait donnée à son peuple par l'entremise de Moïse. Donc, ils étaient convaincus que ce qu'ils entendaient, c'était véritablement le Créateur qui s'adressait à eux. Et ils ont pris la peine de l'écouter attentivement pendant plusieurs heures, même la première journée, là, ils étaient debout, tous à entendre, les vieux comme les jeunes, même les enfants étaient là. Et ils ont eu le cœur touché, ce qui a montré cela, ils l'ont démontré tout de suite en obéissant à la parole de Dieu. Et ils ont réajusté finalement l'organisation de cette fête-là, suivant les prescriptions précise que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament. Ensuite, au chapitre 9, qu'on a vu la semaine passée, il y a deux semaines, ils se sont rappelés les grands actes de miséricorde de Dieu dans l'histoire. Mais justement, ils relisaient ces récits-là, le récit de la délivrance d'Israël lorsque Dieu les a sortis d'Égypte avec son bras puissant, avec les 10 plaies qu'il a démontré sa puissance, mais il a démontré aussi à plusieurs reprises sa grâce, sa compassion, parce que le peuple, malheureusement, n'était pas fidèle. Peu de temps après la sortie d'Égypte, ils ont construit un veau d'or pour l'adorer. Et à répétition, ils se sont détournés de Dieu, mais Dieu allait les chercher. Oui, il manifestait sa colère, oui, sa justice, mais sa grande compassion. Et à plusieurs reprises, il a été fidèle alors qu'eux étaient infidèles. Et même lorsqu'ils ont été déportés, même lorsqu'ils avaient perdu leur territoire, que le temple était détruit, Dieu est demeuré fidèle. Et l'histoire d'Esther qu'on a lue l'a bien montré, comment Dieu a protégé son peuple. Puis là, ils sont à nouveau de retour dans leur territoire et ils peuvent sentir un peu ce que les enfants d'Israël ont senti lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte. Ils ont été libérés de l'emprise de l'Empire perse, pas totalement, là, mais ils sont de retour sur leur territoire et ils se réjouissent de la grâce de Dieu. Puis, ils ont pris conscience aussi que tout ce qu'ils subissaient là, comme conséquence malheureuse, la détresse dans laquelle ils vivaient, était la conséquence de leur péché. Et Dieu n'avait jamais été injuste en leur faisant subir cela. Au contraire, ils auraient même mérité pire que cela. Ils auraient mérité d'être totalement détruits. Mais Dieu les a permis de survivre, de se réunir à nouveau, de reconstruire le temple. Mais ils ont réalisé que s'ils étaient dans cette situation où ils étaient peu nombreux, à la merci des peuples qui les entouraient, ils n'étaient même pas maîtres chez eux parce qu'ils étaient encore, dans un sens, des esclaves de l'empereur perse. Ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, ils étaient encore dans une détresse. Ils n'avaient pas... C'était très loin de la situation glorieuse à l'époque de Salomon, là. Donc, ils avaient perdu tout cela, mais c'était seulement par leur propre faute, finalement. C'était la conséquence de leur propre infidélité. Et ça les pousse à une grande reconsécration. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lisons ensemble Néhémie, chapitre 10. Néhémie, chapitre 10, ça commence par les mots. « À cause de tout cela, nous contractons un pacte. » Donc, si vous lisez, moi je lis ici dans la version Louis II, 1978, « La colombe ». Il y a plusieurs versions qui commencent à ce point-là, mais peut-être que si vous lisez dans la Louis II, 1910, la première phrase se trouve à la fin du chapitre 9. Donc, il y a un petit décalage. « À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Sur les documents scellés se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Sur les documents scellés se trouvent Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécias, Seraïa, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkia, Atouche, Shebania, Malouk, Arim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guinetan, Baruch, Meshulam, Abia, Miamim, Maazia, Bilgaï, Shemaéja, sacrificateur. Donc, c'est la liste des sacrificateurs. Il y a aussi les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binoui, des fils de Enadad, Kadmiel, et leurs frères, Shebania, Odia, Kelita, Pelaya, Anan, Miché, Rehob, Ashabia, Zakour, Sherebia, Shebania, Odia, Bani, Beninou, et les chefs du peuple, Pareosh, Paat Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bibaï, Adonia, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odia, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Meshulam, Ezir, Meshézabéel, Tzadok, Yadua, Pelatia, Anan, Asaya, Ozé, Anania, Ashub, Aloek, Pila, Shobek, Reum, Ashabna, Maaseya, Abia, Anan, Malouk, Arim, Baana. Il y a quelques noms qui sont plus faciles à prononcer que d'autres. Hein. Si c'est votre nom, si votre nom apparaît dans la liste, désolé de l'avoir massacré peut-être. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères, les plus considérés d'entre eux, et ils promettent avec serment, ils jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances, ses prescriptions. Nous promettons, donc on a un extrait ici de ce qui est écrit sur les documents, de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou des denrées quelconques à vendre, et de faire relâche la septième année en n'exigeant le paiement d'aucune dette, l'année du jubilé. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les rangées de pain, de propositions, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché, destinés à l'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort, sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et de nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Et le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de trésorerie. Quand les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile, là sont les objets du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. C'est tout un vœu qu'ils ont fait là devant l'Éternel. Ils ont juré devant Dieu. Et ça veut dire qu'ils se soumettaient à la volonté de Dieu, même pour être bénis s'ils obéissaient, ou être punis, maudits s'ils désobéissaient. Donc, c'était vraiment un engagement solennel que tout le peuple a pris ici. Et on va voir trois aspects de cette reconsécration-là, cette reconsécration nationale. Ici, dans ma version, c'est écrit le mot « pacte ». C'est un pacte qu'ils ont contracté. Dans votre version, c'est peut-être un autre mot. J'ai vu dans différentes versions en français le mot « engagement ferme », »,« engagement solennel » ou « un accord », »,« une convention », »,« une alliance ». Ça peut porter à confusion, par contre, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une nouvelle alliance. L'alliance est un bon mot, oui, mais il faut comprendre que c'est un renouvellement de l'ancienne alliance, de l'alliance conclue au temps de Moïse. Et c'est arrivé quand même à plusieurs reprises que la nation d'Israël a renouvelé cette alliance-là. D'ailleurs, la deuxième génération, après qu'ils soient sortis d'Égypte, la première génération a péri dans le désert, et dans Deutéronome, on lit comme s'ils contractaient à nouveau cette alliance-là. C'est la même. Plus tard, le peuple aussi entré en Canaan sous Josué a renouvelé cette alliance-là. Et là, c'est plusieurs siècles plus tard, ils renouvellent cette alliance-là, donc elle devient actuelle pour eux. Ils s'engagent à obéir à Dieu. Ce qui est d'abord souligné ici avec emphase, qu'on a lu toute une liste de noms, c'est que tout le peuple s'engage dans cette alliance-là, vraiment d'un commun accord, en commençant par les dirigeants. Ils apposent leur sceau sur les documents. C'est comme une signature officielle. Aujourd'hui, on a de multiples façons de signer, là, mais à l'époque, pour authentifier que c'était vraiment une personne, c'était son sceau. Je ne sais pas si c'était un sceau à main comme ça ou si c'était une bague, mais un sceau propre à chacune des familles, à chaque lévite, chaque sacrificateur, et le sceau du gouverneur. Donc, le premier qui appose sa signature sur le document, c'est Néhémie lui-même. Néhémie, qui est le gouverneur de ce grand territoire-là, il relève directement de l'empereur. Artaxerxès. Mais il est lui-même juif. Et il s'identifie avec le peuple qui est sous sa responsabilité. Est-ce que Néhémie lui-même avait besoin de se reconsacrer, de se repentir à Dieu? Bon, certainement qu'il n'était pas un homme parfait. Tous les hommes et les femmes présentés dans l'Ancien Testament ou dans toute la Bible ne sont pas parfaits. Ils ont tous péché à un moment ou à un autre. Mais le texte ici ne présente pas Néhémie comme ayant besoin d'un grand changement de vie. Il était déjà un homme pieux, qui adorait Dieu, qui était fidèle. Mais il saute sur l'occasion quand même pour être le premier à dire « Je me joins à ce renouvellement de l'Alliance, cette reconsécration. » Il s'identifie avec le peuple. Il est l'un des Juifs parmi eux. Même s'il semble être une exception avec Esdras aussi, le scribe, il s'identifie pleinement au peuple et il donne l'exemple. « Moi-même, je m'engage devant Dieu. » Comme s'il avait besoin de changer de vie. Il donne l'exemple et c'est vraiment une preuve d'humilité remarquable. Un vrai serviteur de Dieu est caractérisé par l'humilité. Et Néhémie ici montre encore une fois son humilité. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un d'autre, un personnage de la Bible? C'est un bon, finalement, Néhémie, c'est un bon précurseur, comme un type de Jésus, notre Seigneur. Jésus n'avait vraiment pas besoin de se repentir lorsqu'il était sur terre. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Il a mené une vie à 100% juste. Il a accompli la volonté de Dieu. Il n'avait pas un cœur partagé, jamais hypocrite. Sincèrement, il suivait Dieu son Père à 100%. Il n'avait assurément pas besoin de se reconsacrer à Dieu. Mais pour s'identifier avec son peuple, il est passé par les eaux du baptême. Il a été baptisé par Jean-Baptiste du baptême de la repentance. Et en faisant cela, vraiment un geste d'humilité, il nous donne l'exemple. Et depuis ce jour-là, on se fait baptiser pour suivre Jésus, s'identifier à lui, et à suivre son exemple, un exemple d'humilité, de consécration à Dieu. Après Néhémie, c'est les sacrificateurs qui apposent leur sceau. Donc, c'était vraiment les dirigeants religieux du peuple, ceux qui connaissaient la loi et qui intercédaient auprès de Dieu aussi pour obtenir sa grâce, son pardon, qui présentaient des sacrifices pour le pardon, l'expiation des péchés du peuple. Donc, qui étaient à temps plein dans le service de la maison de Dieu. Les Lévites aussi apposent leur sceau. Donc, les Lévites étaient aussi mis à part pour le service religieux. Ils enseignaient la loi, mais ils étaient répartis dans les différentes villes, dans le territoire. Donc, ils étaient soumis aux sacrificateurs. Les chefs du peuple aussi apposent leur sceau. Donc, les chefs du peuple, qu'on appellerait laïcs, mais ils étaient responsables de toute l'administration, les gestionnaires, les chefs de famille, les chefs de clan. Ils s'unissent aussi pour embarquer dans cette grande réforme, cette reconsécration. Et tout le peuple se joint à eux, les nobles comme les moins considérés, donc les riches comme les pauvres, les hommes comme les femmes, les adultes comme les enfants même, les enfants en âge d'être capables de comprendre ce qui se passait, donc, ils avaient l'âge de compréhension. Les enfants, eux aussi, se sont joints à cette alliance. Donc, ça concernait vraiment toute la population, tout le peuple. Mais c'est aussi, donc on peut voir, c'est un engagement, finalement, du peuple entier qui se reconsacre à Dieu, mais c'est en même temps un engagement personnel de chacun d'eux. Et c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs noms qui sont nommés ici. Encore une fois, Dieu nous rappelle par sa parole combien chacun des individus dans son peuple est précieux pour lui. Et il ne s'attend pas, il ne souhaite pas simplement qu'une église soit en santé, mais que chacun de ses membres soit en santé spirituelle et consacré à lui. Mais c'est sûr que c'est relié tout cela, là. Mais on voit les deux aspects ici. Autant le peuple entier se reconsacre à Dieu, et chacun des individus du peuple. On n'est pas simplement, si on revient dans notre contexte d'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas simplement des partisans d'une église. Et c'est peut-être le piège de suivre un culte sur YouTube, même si cette technologie nous a été d'une grande bénédiction pour nous. Mais on peut devenir des partisans de telle église ou de tel pasteur. Mais ce n'est pas simplement ça que Dieu s'attend de nous, c'est que nous soyons membres d'une église. Comme nous ne sommes pas simplement des partisans d'une équipe de hockey, là, aussi bons que soient les Canadiens de Montréal. Mais si on n'est pas... Si on n'est pas sur la liste des joueurs, on n'est pas un Canadien de Montréal. Mais Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit simplement des partisans d'une église, mais qu'on soit membre de cette église-là, qu'on la forme nous-mêmes. Et c'est ce que Éphésiens 4 nous rappelle, ce qui nous unit, ce n'est pas simplement que nous sommes d'accord en principe, là, sur une manière théorique, mais c'est quelque chose de réel, les liens qui unissent les chrétiens entre eux. Nous lisons dans Éphésiens 4 que ce qui nous unit, c'est que nous avons un seul esprit, un esprit qui est venu habiter en nous et qui nous unit de manière réelle, bien qu'invisible, nous en voyons les effets. Nous avons une seule et même espérance. Nous espérons tous un jour être auprès de Jésus. Nous espérons avoir la vie éternelle. C'est une certitude, mais c'est notre espérance. Nous avons une même vocation, une même mission, une même raison d'être. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, donc un seul engagement dans cette nouvelle vie, un seul Dieu, notre Père. Si on peut faire un parallèle entre cette grande consécration du peuple de Dieu à l'époque de Néhémie avec nous aujourd'hui, je pense que ce qui est notre plus grande consécration, c'est lorsqu'on passe par les eaux du baptême, où on démontre publiquement devant Dieu qu'on est un disciple de Jésus, on le confesse et on s'engage à le suivre. Si vous n'êtes pas encore baptisé, bien voici ce que dit Actes 2, 38 et 39. « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est d'ailleurs par le Saint-Esprit que vous pouvez faire cela, croire en Jésus. Vous repentir. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants même, qui sont en âge de comprendre, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Si vous êtes baptisé, c'est le cas de la plupart d'entre nous, mais souvenons-nous de notre engagement envers Dieu le jour de notre baptême. Nous l'avons fait devant témoins, un engagement solennel. À quoi est-ce qu'ils se sont engagés? Et ça nous ressemble un peu aussi. Ils se sont engagés ici, à l'époque de Néhémie, ils se sont engagés à suivre la loi de Dieu. Rien de moins que d'obéir à toute la loi de Dieu. Puis là, ils venaient d'en faire la lecture. Je suppose que pendant la semaine, ils ont pu lire tout le Pentateuque, tous les 5 premiers livres. Ils ont lu la loi qui est même répétée en grande partie dans Deutéronome. Ils ont eu connaissance de tous les échecs. Même ils relatent dans leur prière les échecs du peuple d'Israël. Ils sont conscients de tout cela, là. Mais leur cœur, là, c'est sûrement Dieu qui a touché leur cœur, les pousse à s'engager. Ils disent, nous voulons finalement mener une vie en parfaite obéissance à la loi de Dieu. Ils ne disent pas, on va viser 60 %, là. Ils visent 100 %. Wow, c'est toute une consécration. Suivre tous les commandements, toutes les ordonnances, toutes les prescriptions de l'Éternel. On voit bien ici, c'est un des passages les plus forts de l'Ancien Testament pour parler de la consécration ou la reconsécration. On voit que ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à une philosophie, là. Ce n'est pas simplement de dire « je suis d'accord avec cette confession de foi-là ». Ah, ça, c'est les doctrines auxquelles je crois. Lorsqu'on se consacre à l'Éternel, ça change notre vie. C'est comme le chant qu'on vient de chanter, là. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ». Ça change toute notre vie. Ça change la manière dont on va se comporter entre chrétiens, bien sûr, mais même sur le marché du travail, sur notre lieu de travail, à la maison, ça va changer nos passe-temps, notre emploi du temps, la manière dont on utilise nos ressources, la manière dont on va penser, qu'on va parler, les choses qu'on va aimer, les choses qu'on ne va pas aimer. Ça change tout, là. Ça change même notre raison de vivre et de nous lever le matin pour vivre cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. C'est censé changer tout. Ça fait penser à un athlète qui s'entraîne pour aller aux Jeux olympiques. Il y en a parfois qui étudient en même temps parce qu'ils pensent à leur après-olympique, mais ils ont une horaire très, très chargée. Toute leur vie est bouleversée, même souvent la vie de toute leur famille et leurs amis est impliquée dans leur formation pour aller aux Jeux olympiques. Même leur diète, la façon dont ils vont manger, leur passe-temps, leurs heures de sommeil, la manière dont ils vont investir leur argent aussi, tout finalement là, est affecté par leur objectif là, d'aller aux Jeux olympiques. Mais c'est la même chose pour un chrétien. Normalement, tout dans notre vie devrait être affecté par cela. Donc, une consécration à Dieu, ça implique un changement très concret, pratique. Comme quand Jésus a rencontré Pierre après sa résurrection. Il a demandé à Pierre, « M'aimes-tu? » Et Pierre lui répond, « Oui, je t'aime. » Mais qu'est-ce qu'il lui dit après? « Paix mes brebis. » Il y a des actions qui découlent de notre consécration à Dieu. dans la nouvelle alliance en Jésus, toute notre vie est affectée si nous sommes consacrés. Et je vais vous relire dans Jean 15. Bien, vous pouvez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 9. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père. » Wow, c'est ça le modèle à suivre, là. L'obéissance parfaite de Jésus. « Et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est comme ça que vous allez démontrer que vous êtes véritablement mes amis et que vous m'aimez. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, vraiment, le commandement de Jésus affecte notre vie ici. Là. On est censé vivre en demeurant dans l'amour de Jésus, en obéissant à ses commandements, qui se résument finalement, ou qui englobent, qui sont tous englobés par ce commandement d'aimer nos frères, d'aimer l'Église que Jésus bâtit. Donc, le jour où nous sommes fait baptiser, nous avons déclaré devant témoins, devant Dieu, que nous étions disciples de Jésus, que nous voulons suivre les traces de Jésus jusqu'à la mort. C'est à cela que nous nous engageons. Je ne sais pas si on en était tous conscients, mais on s'engage à aimer nos frères et sœurs jusqu'à la fin. En toute occasion, en toute situation, en toute circonstance. De les aimer, et même que notre amour grandisse au point de ressembler à celui de Jésus qui a été prêt à donner sa vie pour ses frères. Ce n'est pas un petit contrat, là. Pour ces Juifs, à l'époque de Néhémie, lorsqu'ils disaient qu'ils allaient obéir à toute la loi, ils étaient bien conscients qu'en faisant cela, ils allaient se distinguer de toutes les autres nations autour. Ils allaient devoir vivre en ayant des habitudes de vie, une culture différente de la culture des habitants, plusieurs habitaient même sur leur territoire et dans les territoires autour aussi. Mais ils étaient... Il côtoyait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui avaient des mœurs, des pratiques complètement différentes. Donc, pour ces Juifs-là, suivre la loi de Dieu, ça voulait dire de se séparer, d'être un peuple à part, se séparer des autres nations. Et un exemple très pratique de cela, c'était de ne pas autoriser de mariage mixte, ne pas se donner la permission de tomber en amour avec une femme d'une autre nation, ou qu'une femme tombe en amour avec un homme d'une autre nation. Mais à l'époque, c'était beaucoup les parents qui organisaient les mariages. Mais c'était de ne pas conclure de mariage mixte pour ne pas commencer des compromis avec les religions païennes et pour éviter de tomber dans l'idolâtrie et d'abandonner Dieu. Ces principes-là demeurent encore aujourd'hui, en fait, lorsqu'on veut suivre Jésus, lorsqu'on dédie notre vie à aimer nos frères, à aimer Christ, on devient différent du monde. Et même Jésus va plus loin en disant que le monde va nous haïr, même à cause de cela. Mais on doit intentionnellement vivre dans le monde, mais en étant conscient qu'on n'est pas du monde. On se sépare du monde dans nos manières de penser, dans nos objectifs de vie. C'est ce que 2 Corinthiens 6 dit, « Ne formez pas avec les incroyants comme un attelage disparate. » Comme deux bœufs là, qui seraient avec un même joug là, pour tirer une charrue, mais qui ne sont pas de la même taille. Ça ne fonctionne pas. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'équité et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, ça, c'est une belle promesse, on va y revenir plus tard. Donc, pour les Juifs, ils savaient qu'en s'engageant à obéir à la loi de Dieu, ils s'engageaient en même temps à se séparer des peuples, à être un peuple mis à part, un peuple saint pour servir l'Éternel. Ça impliquait aussi un certain sacrifice financier. Les autres nations, ils pouvaient faire des affaires, de la business, là, de la vente et des achats en tout temps de la semaine, mais pour les Juifs, il y avait une journée de repos, le sabbat, et ils s'engageaient que même si des gens de d'autres nations venaient leur faire des belles propositions, ils n'allaient pas sauter sur l'affaire si c'était un jour de sabbat. Ils n'allaient pas faire de commerce avec les païens ou dans les fêtes solennelles pendant l'année aussi. Et ils allaient même, contrairement à toutes les pratiques d'esclavage à l'époque, ils allaient même s'engager à obéir à la loi de Dieu et après 7 ans, libérer tous ceux qui avaient été comme leur employés, leurs frères qui étaient sous leur service. Donc, ils allaient vraiment avoir accepté des pertes, si on peut dire, financières, qui vont contre le gros bon sens du monde. On disait, voyons, tu refuses de faire des affaires le jour du sabbat. Mais s'ils prenaient cet engagement-là ce jour-là, c'est parce qu'ils croyaient aussi aux promesses de Dieu, promesses de bénédiction s'ils obéissaient et de malédiction s'ils désobéissaient. On n'a pas directement ces mêmes promesses-là aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, même si le sabbat en tant que journée n'existe pas dans la Nouvelle Alliance, d'avoir un temps mis à part, de se fixer des limites, si on peut dire, pour nos affaires, pour le travail, des limites à ne pas dépasser pour garder un temps réservé pour le service, pour Dieu, un temps à consacrer pour nos frères et sœurs, pour l'étude de sa parole, pour la prière, pour l'adoration, pour venir adorer Dieu en Église, pour évangéliser. Si on met un temps à part pour cela, ça nous coûte quelque chose. Les gens du monde qui n'ont pas cette même limite-là vont pouvoir peut-être sauter sur l'occasion des journées fériées pour travailler à temps double, à temps triple, faire plus d'argent. Je me souviens, lorsque j'étais chef d'entreprise, là, quand j'étais ingénieur, parfois je regardais des directeurs de d'autres bureaux d'ingénieurs qui eux, ils travaillaient des fois ils travaillaient en fou pendant la semaine, mais le samedi, c'est là la journée où ils faisaient toute l'administration, qui répondaient à des courriels. Le dimanche, ils préparaient la semaine à venir. Ils étaient comme toujours en service, là. Moi, je me disais, oh, en tant que chrétien, je ne peux pas faire ça, je suis privé. Donc, je suis comme désavantagé. Mais Dieu a béni. Je ne suis pas en train de dire que c'est automatique, là, mais Dieu bénit et Dieu honore le temps qu'on lui consacre. J'en ai vu plusieurs, juste que je ne connais pas les raisons, mais j'ai vu plusieurs entreprises où, de toute façon, les dirigeants se démenaient, là, puis qu'ils ont quand même fermé, ils ont quand même fait faillite. Ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, on travaille en vain. Donc, le sabbat n'existe plus, mais il y a quand même des principes où on met du temps à part pour Dieu qui sont toujours valables pour les chrétiens aujourd'hui. Il y a aussi certaines manières d'agir dans le monde qui, normalement, c'est une manière de faire un petit peu d'argent, d'économiser, qu'un chrétien ne peut pas toucher à cela, toucher à quelque chose d'impur, comme travailler au noir pour ne pas payer d'impôts, travailler en dessous de la table. Ou engager quelqu'un en lui payant un comptant sans facture pour éviter les taxes. C'est très facile, c'est répandu, ça. Puis, on va dire que tu es stupide de ne pas sauter sur l'occasion quand ça se présente. Mais si un chrétien se refuse à faire cela pour honorer son Dieu, Dieu va le bénir, j'en suis convaincu. Donc, lorsqu'on s'engage à suivre Christ, on s'engage à cela aussi. Et comme troisième et dernier point, on a vu à quoi ils s'engageaient aussi les Juifs dans cette grande reconsécration-là, c'était à ne pas abandonner la maison de Dieu. Donc, à veiller, non seulement personnellement, là, à obéir à la loi et à ne pas se mêler avec les peuples impurs, à rester saints, mais s'assurer aussi que le culte à l'Éternel puisse continuer. Donc, ils s'engageaient à entretenir la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, le temple et tout le service religieux. On voit que la charge que les sacrificateurs avaient, elle était quand même imposante. Ils devaient poser les pains de proposition sur la table. Il devait à chaque jour sacrifier deux agneaux, un matin et un le soir, pour les offrandes quotidiennes, et quatre agneaux pour les jours de sabbat. Il devait offrir beaucoup de sacrifices pour toutes les fêtes, pour l'expiation des péchés du peuple, des holocaustes, des oblations. Est-ce que ça devait tout sortir de la poche et des troupeaux des sacrificateurs alors qu'il travaillait à temps plein pour le temple? C'est sûr qu'il ne pouvait pas. Donc, le peuple s'engage finalement à donner, à pourvoir pour que ceux qui travaillent au temple puissent faire leur travail. Donc, c'est le peuple qui fournit. Il donne annuellement, même au temple, il s'engage à donner une somme pour couvrir les coûts du service au temple. Et ils se sont engagés aussi à faire vivre les Lévites, qui étaient dans plusieurs villes sur le territoire. Normalement, chacune des villes avait des Lévites qui étaient là. Et ils s'engagent à donner la dîme, donc 10 % de leurs revenus aux Lévites. Et les Lévites eux-mêmes allaient donner 10 % de ce 10 %-là, la dîme de la dîme, aux sacrificateurs, au temple. Donc, c'est un système que Dieu lui-même avait mis en place dans la loi de l'Ancien Testament, qui était bon, mais qui avait sûrement été négligé. Là, il s'engage à l'appliquer. Il s'engage aussi à fournir le bois pour les sacrifices. Ça, ce n'était pas spécifié directement dans la loi, mais ils disent, on ne peut pas non plus laisser les sacrificateurs la charge de trouver leur propre bois, là. Et ils se font un horaire, puis chaque famille pendant l'année a la charge d'apporter le bois pour tous les sacrifices, à tour de rôle. Ils s'engagent aussi, comme la loi le préconise, là, de donner les prémices de toute leur moisson, donc la première récolte, là. Ce qu'on a le goût de manger tout de suite, là, parce que c'est les premiers, là, ils consacrent à Dieu. Consacrer aussi les premiers-nés du bétail, donc le premier veau qui naît d'une vache, ou le premier agneau, est consacré, est amené au sacrificateur. Même le premier-né parmi les humains, le premier fils dans la maison, est consacré à Dieu, mais Dieu avait prévu dans la loi qu'il pouvait être racheté. Donc, c'est pour ça qu'il était présenté au temple et que les parents le rachetaient avec une somme d'argent. Dieu avait ordonné ça, le rachat des premiers-nés, pour qu'ils se souviennent que Dieu les avait sortis d'Égypte pour qu'ils lui appartiennent. Et lorsqu'il les a sortis d'Égypte, libérés d'Égypte, il avait la dixième plaie. Vous vous souvenez qu'il avait fait 10 plaies contre les Égyptiens. Et la dixième, c'est qu'il avait fait périr tous les fils premiers-nés en Égypte. Donc, c'était une manière aussi de se souvenir de cela. Qu'eux, ils avaient été épargnés. Leurs premiers-nés avaient été épargnés parce qu'ils avaient cru en Dieu. Ils avaient mis le sang de l'agneau sur la porte. La raison de tout cela, pourquoi qu'ils s'engagent à tout cela, ils le disent à la fin du chapitre. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Donc, ils ne prenaient pas pour acquis là, que ça allait se faire tout seul, que parce qu'ils avaient de bonnes intentions, qu'ils n'allaient pas abandonner la maison de Dieu. Ils prennent des résolutions fermes et ils mettent en pratique, et même si c'est inscrit dans un document. Donc, ils s'assurent finalement qu'ils n'en vont pas oublier, que la semaine suivante, alors que leur feu s'est calmé un petit peu, là, qu'ils ne vont pas négliger. On dirait même qu'il y a une petite crainte. Là. On l'a tellement abandonné souvent la maison de Dieu. Est-ce qu'on va encore l'abandonner? Il faut tout faire pour qu'on ne l'abandonne pas. Ils s'imposent des règles, ils font des vœux pour être sûrs de ne pas abandonner. Ils voulaient s'assurer de ne pas négliger le service religieux parce qu'ils étaient conscients que de négliger le service au temple, ça allait affecter directement leur santé à eux aussi. Et inévitablement, ils allaient se détourner de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, la maison de Dieu, on l'a lu tantôt, hein, le temple de Dieu. Et où est-ce qu'il se trouve? C'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Finalement, c'est l'Église. C'est les frères et sœurs de Jésus. C'est les enfants de Dieu qui forment le temple de Dieu. Donc, l'assemblée des chrétiens. Et c'est toujours aussi important, le principe demeure, d'entretenir ça. On l'a vu ce matin dans le cours que c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est vrai. Mais il nous donne des marteaux d'ici. Et il nous fait l'honneur de bâtir avec lui. Il veut qu'on travaille à cela, de tout faire en sorte pour ne pas négliger l'Église. Donc, c'est toujours extrêmement important d'entretenir la maison de Dieu sans la négliger. Et concrètement, en suivant l'exemple même des Juifs dans l'époque de Néhémie, de donner pour le salaire de ceux qui sont mis à part pour servir à l'Église, de donner pour la poursuite des activités d'évangélisation, pour les missionnaires aussi qui sont prêts à aller même outre-mer, et pour l'édification, là, pour les chrétiens grandissent dans la foi, se multiplient. De donner aussi pour le lieu de rassemblement, même si c'est juste un bâtiment, il est précieux pour nous. Là. Donc, qu'on puisse continuer à se rassembler. Un bâtiment pour célébrer un culte à Dieu. Et c'est dangereux pour un chrétien, et c'est triste de voir qu'un tiers des chrétiens ont pris la mauvaise habitude, la décision de ne plus retourner à l'Église. C'est dangereux pour un chrétien de négliger son assemblée. Et de dire, je me suis déjà engagé pour le Seigneur, j'ai déjà été baptisé, je suis un chrétien. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. On ne peut pas se détacher de l'Église, négliger son appartenance à l'Église, négliger l'amour pour les frères et sœurs sans en subir les conséquences. Et malheureusement, pour certains aussi, ils démontrent par là qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Mais pour d'autres, c'est qu'ils se refroidissent, ils en subissent les conséquences. Et on a un avertissement solennel dans Hébreux 10, 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Bon, ça existait déjà, même il y a 2000 ans, ça. « Mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Certains ont pris conscience que Jésus est encore plus près d'arriver. Là. Jésus revient bientôt. En voyant tous les signes précurseurs de la fin des temps, Jésus revient. Et certains, malheureusement, en voyant ça, délaissent leur assemblée. C'est le contraire qu'on devrait faire, selon Hébreux 10, de ne pas abandonner l'assemblée, de s'exhorter mutuellement, à veiller jusqu'à la fin. Quand on délaisse l'Église, on finit inévitablement par délaisser le Seigneur. On a une flamme là, qui représente peut-être notre santé spirituelle. Quand on s'éloigne, cette flamme-là diminue. C'est comme si on versait de l'eau dessus même. Là. On est en train de l'éteindre, de l'étouffer. Mais ça peut malheureusement devenir chronique dans une Église et au point d'infecter toute l'Église. Certains vont continuer d'assister au culte, mais de manière très individuelle. Ils ne veulent pas parler à personne. Venir, si possible, incognito. Le lien d'amour n'est plus là. Donc, qu'on soit à distance ou même dans le bâtiment, on peut avoir ce détachement de nos frères chrétiens et ça peut se répandre. Une église même peut tout à coup être, une église locale peut être caractérisée par cela, une froideur. On tient encore à la doctrine, on est prêt à se battre pour nos croyances, pour notre confession de foi, mais on a perdu l'amour pour Jésus. Dans Apocalypse 2, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, à qui la lettre aux Éphésiens a été écrite, justement pour montrer que le summum de la vie chrétienne, c'est l'amour. Mais Jésus s'adresse à cette église-là dans Apocalypse 2 pour leur dire, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert même à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et si tu te repens, pratique tes premières œuvres. La repentance nous pousse à un changement là, pratique, concret. Là. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ce chapitre-là, justement, c'est un très bel exemple de repentance, une repentance sincère qui n'est pas juste un regret d'avoir péché. On l'a vu dans le chapitre 9, comment ils ont regretté. Au chapitre 8, on voyait comment ils pleuraient, là, le cœur amer d'avoir péché. Ils reconnaissent qu'ils subissent les conséquences de leur péché. C'est leur faute. Au chapitre 10, on voit le deuxième volet d'une vraie repentance, c'est qu'ils se consacrent à Dieu. Ils font des changements radicaux et ils s'engagent. Malheureusement, on sait que, aussi bien intentionnés qu'ils étaient, peu de temps après, on va le voir à la fin du livre de Néhémie, ils vont commencer tout de suite à faire des compromis, des mariages mixtes. Ils vont délaisser. Puis on sait que, rendu à l'époque de Jésus, quelques siècles plus tard, la grande majorité suivait une religion sans relation avec Dieu, là, sans amour pour Dieu, pleine d'hypocrisie. Mais ça, c'est pour nous montrer que livré à lui-même, le peuple de Dieu est incapable, finalement, de suivre la volonté de Dieu. Aussi bonnes soient ses intentions, sa volonté, parce que le cœur est corrompu. Et on peut être convaincu là, d'une chose, puis quelques heures après, on oublie pourquoi on était aussi convaincu que ça. Mais on a un grand avantage dans la Nouvelle Alliance. C'est ça, la grande nouveauté, là, quand on dit que l'Ancienne Alliance était caractérisée par la loi qui nous condamnait. La Nouvelle Alliance, c'est la grâce. Quelle est cette grâce-là? C'est que Dieu vient nous pardonner nos péchés par son Saint-Esprit qui vient nous laver, mais son Saint-Esprit reste en nous aussi, là. Et son Saint-Esprit nous rend capables et désireux même de suivre la volonté de Dieu. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et il commence une œuvre de transformation dans le cœur du chrétien, qui est vraiment son enfant, pour le rendre persévérant. Et c'est possible maintenant de sortir de ce cycle-là qu'on voit à répétition dans l'Ancien Testament, de reconsécration, mais de chute, d'infidélité chronique. C'est possible pour le chrétien de mener une vie fidèle à Dieu. Pas parfaite, mais une vie où est-ce qu'on reste attaché au Seigneur. Dans sa grâce, là, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour maintenir cette flamme-là. Et par cet esprit-là, même, nous devenons ses enfants, les enfants de Dieu. Donc, même la relation que nous avons avec Dieu est une relation avec notre papa. Nous pouvons nous approcher de notre Père céleste et lui demander pardon en tout temps, et il nous pardonne. Si nous l'aimons, nous aimons Jésus, nous voulons suivre ses commandements. Jésus nous dit à l'avance même que Dieu va nous donner tout ce qu'on lui demande, dont le pardon pour nos péchés. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme dirait l'auteur d'Hébreux, n'endurcissez pas votre cœur. Et je me joins à vous, là. Nous devons nous reconsacrer. Si dans une sphère ou une autre de notre vie, nous nous sommes écartés de la volonté de Jésus, si nous sommes devenus individualistes, égocentriques, nous avons perdu de vue l'amour pour Jésus, l'amour pour nos frères, bien, c'est une bonne journée pour se reconsacrer. Et Dieu est toujours prêt à entendre nos prières et dans sa grâce, il va nous équiper pour nous rendre capables d'aimer. Même si on demande même à Dieu, donne-moi un plus grand amour pour toi, un plus grand amour pour Jésus, un plus grand amour pour mes frères, pour mes sœurs, mais il va répondre, il va donner. Donc, renouvelons notre engagement pour obéir à l'enseignement de Jésus. Et contentons-nous pas là, d'un 30%, d'un 60%, visons à suivre Jésus à 100%, à nous séparer du monde. Nous vivons dans un monde, c'est vrai, là, puis nous sommes comme une lumière qui brille, mais nous ne sommes pas les ténèbres. À ne pas nous conformer aux pensées, aux pratiques du monde, puis à nous investir pour la maison de Dieu, qui est son Église. Nous investir par le service à l'Église, par nos offrandes fidèles, comme nous l'avons résolu, que ce soit un don offert avec joie et que Dieu va pouvoir utiliser à bon escient. Et ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Amen.